Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle catéchèse du Padre Blog. Nous poursuivons notre parcours à travers le credo de notre foi chrétienne et aujourd'hui nous nous intéressons à la passion du Christ, à sa crucifixion et à sa mort sur la croix. Ces événements historiques qui se sont déroulés il y a maintenant 2000 ans sont au centre de notre foi chrétienne. Oui, si le Christ est un jour ressuscité et par là nous a ouvert les portes du paradis, c'est bien qu'auparavant, il a été crucifié et qu'il est mort. Oui, en mourant, le Christ a accompli le salut de tous les hommes une fois pour toutes. C'est ce qu'affirme la lettre aux Hébreux. Nous allons donc parcourir en trois étapes ces derniers instants de la vie du Christ sur terre. Nous verrons dans un premier temps ce qui s'est passé juste avant la crucifixion et donc ce qui a préparé cette crucifixion. Nous verrons dans un deuxième temps comment le Christ a souffert, quelles ont été les étapes de sa passion et de sa crucifixion. Et enfin, dans un troisième temps, nous nous poserons la question assez délicate suivante. Pourquoi le Christ a-t-il souffert? Pourquoi est-il mort? Était-il nécessaire qu'il meure? Première étape, avant la crucifixion. Comment des hommes en sont venus, il y a 2000 ans, à vouloir crucifier Jésus? Eh bien, dès le début de sa vie, Jésus a rencontré des problèmes, des oppositions avec les pharisiens et avec les hérodiens. Certains de ses actes ont choqué. Lorsqu'il expulsait des démons, lorsqu'il pardonnait les péchés, lorsqu'il guérissait le jour du sabbat, lorsqu'il donnait des interprétations audacieuses de certains préceptes de pureté de la loi juive, sa familiarité trop grande avec les publicains et les pécheurs. Bref, certains ont cru qu'il était possédé, certains miracles qu'il accomplissait dérangeaient. Très vite, on porte contre Jésus, et on le voit à travers l'Évangile, des accusations de blasphème et d'être un faux prophète. Or, ces choses-là sont punies par la mise à mort. Plusieurs fois, on a essayé de mettre à mort le Christ. Par exemple, en Luc, on dit « Ils se levèrent, ils poussèrent Jésus hors de la ville, ils le menèrent jusqu'à un escarpement où leur ville était construite afin de le précipiter en bas. » Pour les Juifs de l'époque, Jésus a semblé agir contre trois points fondamentaux de la foi du peuple élu, la loi de Moïse, le temple de Jérusalem et la foi dans le Dieu unique. Alors si vous le voulez bien, reprenons ensemble ces trois éléments, les uns après les autres. Le rapport entre Jésus et la loi de Moïse. Jésus commence son enseignement en disant et en déclarant ceci, « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, non, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Vous trouvez ce passage en Matthieu 5, 17. « Puisque Jésus est le Messie d'Israël, il se doit d'accomplir, évidemment, toute la loi de l'Ancien Testament. Mais il le fait d'une manière bien spéciale, en la dépassant, en allant encore plus loin. Oui, Jésus, puisqu'il est le Messie, vrai Dieu et vrai homme, il est à la fois le législateur, celui qui promulgue la loi, puisqu'il est Dieu lui-même, mais il est aussi sujet de la loi. En se faisant homme, il a accepté d'être sujet de la loi. Chez lui, la loi est donc gravée dans le cœur. Elle n'est pas extérieure, comme c'était le cas pour les Juifs, qui avaient, eux, la loi inscrite sur les tables. Jésus ne se présente pas à ses contemporains comme un simple rabbi, un maître, parmi d'autres qui interprètent la loi et qui donnent son avis sur la loi de l'extérieur. Non, il en donne le sens le plus profond, le plus fondamental. Comme il le dit lui-même, le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, est maître même du sabbat. Or, ce sabbat, c'était une des prescriptions fondamentales de la loi. Jésus se place au-dessus du sabbat. Oui, Jésus a autorité sur la loi puisqu'il est le Verbe de Dieu. Il est la parole de Dieu et que cette loi n'est rien d'autre qu'une parole de Dieu. C'est donc lui, Jésus, qui donne l'interprétation définitive de la loi. Après que Jésus ait parlé, on ne peut plus rien rajouter. Tout est accompli. C'est cela qu'ont remis en cause les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens. Pourtant, Jésus s'était montré envers eux plein de pédagogie. Il a même accompagné ses paroles par des signes et des miracles qui attestaient de sa divinité et donc de son autorité de législateur et de vrai interprète de la loi. Deuxième élément, les rapports entre Jésus et le temple de Jérusalem. Jésus a manifesté tout au long de sa vie un lien très fort et plein de respect pour le temple de Jérusalem. Il y est allé au moins une fois par an pour le grand pèlerinage annuel que les Juifs font à Jérusalem. Il y a été présenté dès sa naissance par Marie et Joseph. Il s'y est retrouvé à l'âge de 12 ans pendant 3 jours avec les docteurs de la loi dans une grande discussion. Bref, Jésus est un familier du temple de Jérusalem. Il en parle comme la demeure de son Père. Il en parle comme d'une maison de prière. Il y a un épisode où on voit Jésus qui est dans le temple et qui en renvoie les marchands, les gens qui faisaient les échanges monétaires dans le temple et qui vendaient les animaux pour le sacrifice. Il le fait parce qu'il considère que ces gens-là dénaturaient la dignité de ce lieu qui était justement non pas une maison de trafic, mais une maison de prière. Et pourtant, peu de jours avant sa mort, il annonce très clairement et très explicitement la destruction de ce temple. Vous pouvez lire cela en Matthieu 24, versets 1 et 2. Et ceci s'accomplira d'ailleurs historiquement, réellement, après sa mort et sa résurrection vers l'an 70. Jésus sait très bien que le temple a de la valeur parce qu'il est le lieu que Dieu a choisi pour se manifester, pour se rendre présent à son peuple élu. Mais puisque Jésus est lui-même le Fils de Dieu, il est lui-même la présence réelle et pleine de Dieu sur terre, eh bien, il peut s'identifier pleinement et naturellement lui-même au temple en se présentant comme la demeure définitive de Dieu parmi les hommes. Jean 2, 21. Ainsi, quand Jésus annonce la destruction à venir du temple, il parle à la fois de la destruction historique du temple qui est fait de pierre et qui, ce temple-là qui se trouve à Jérusalem et qui sera détruit par les Romains, mais il prophétise aussi et peut-être même surtout la destruction du sanctuaire de son corps. Il prophétise sa mort. En clair, il annonce cette mort corporelle qui précédera sa résurrection. Il annonce donc aussi, mystérieusement, que le temple, celui fait de pierre, sera remplacé par un autre temple, un temple spirituel, celui-ci. Un temple non fait de main d'homme, ce temple-là, c'est l'Église, la communauté de ceux qui ont foi en Jésus et qui seront baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus avait fait cette prophétie de la destruction du temple et voilà pourquoi il a dit « L'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père, mais l'heure vient et c'est maintenant, dit Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, dit Jésus, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Pas besoin, en tout cas plus besoin, du temple de Jérusalem, une fois que Jésus s'est manifesté au monde. » Tout ceci a semblé scandaleux à beaucoup de Juifs de l'époque du Christ, et donc ils l'ont accusé pour toutes ces prophéties qu'il avait annoncées. Vous pouvez voir ça en Marc 14, versets 57 à 59. Troisième élément, Jésus et la foi au Dieu unique. On l'a compris, le rapport de Jésus à la loi et au temple ont semblé problématiques pour les autorités juives de l'époque. Mais le véritable scandale, le scandale le plus profond, ce qui était vraiment et profondément inacceptable à leurs yeux, c'était que Jésus prétende être l'égal de Dieu. Cela s'est manifesté en particulier dans le rôle que prétendait avoir Jésus dans la rédemption des péchés, lorsqu'il pardonnait les péchés à ceux qui s'approchaient de lui. En effet, pour un juif, seul Dieu peut pardonner les péchés. En pardonnant les péchés des hommes, Jésus a mis les autorités religieuses d'Israël devant un grand dilemme. Ou bien Jésus blasphème, car c'est un homme qui se fait l'égal de Dieu, comme on le voit en Jean 5, 18, ou bien il dit vrai, et sa personne est une manifestation de Dieu. Il est lui-même de nature divine. Comme on a pu le voir dans d'autres vidéos, Jésus prétend réellement être fils de Dieu au sens fort. Il prétend être de nature divine. C'est ça qui a déboussolé les Juifs de son temps. En plus de cela, il leur demandait de faire un pas énorme dans leur foi. Il a clairement demandé aux religieux juifs de Jérusalem de croire dans sa personne, de croire en sa divinité. Il l'a fait en appuyant, certes, sa demande avec des signes miraculeux. On le voit par exemple en Jean 10, versets 36 à 38. Mais c'était une vraie conversion religieuse qu'il demandait aux juifs, un acte de foi que les juifs de l'époque, qui décidaient de le suivre, devaient sans doute vivre comme une part de mort à eux-mêmes, une part de reniement de leur héritage. Jésus parle d'une nouvelle naissance d'en haut pour celui qui croit en lui, comme il le dit en Jean 3, 7. une nouvelle naissance à vivre, une ouverture renouvelée à la grâce de Dieu. Cette exigence demandée par Jésus ira jusqu'à ce qu'il dise « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Voilà la racine de la condamnation à mort de Jésus par le tribunal juif. Nous nous posons maintenant la question « Comment Jésus a-t-il souffert ?» Quelles sont les étapes de la passion et de la mort du Christ ? Comment a-t-il souffert ? Voyons tout d'abord le procès. Comme nous l'avons déjà dit, Jésus a été condamné à mort par les autorités religieuses juives pour blasphème. Ceci dit, nous avons des témoignages que, y compris parmi les autorités juives de l'époque, certains ne souhaitaient pas la mort du Christ. L'Évangile nous parle du pharisien Nicodème, par exemple, qui était contre la crucifixion du Christ. Mais il nous parle aussi d'un notable juif, Joseph d'Arimathie, qui était en défaveur de la condamnation de Jésus. Parmi les juifs du peuple, saint Jean nous informe qu'un bon nombre crut en Jésus juste avant qu'il soit condamné. On voit ça en Jean 12, 42. Ils croient en lui, même s'ils avaient peur de se déclarer pour lui à cause justement des autorités. Le Nouveau Testament témoigne d'ailleurs du fait que, après la mort et la résurrection du Christ, de nombreux juifs, qui étaient des sympathisants avant sa mort, de nombreux juifs, et y compris même des prêtres, on voit ça en acte 6, et des pharisiens en acte 15, se convertissent et embrassent la foi en Jésus. Ce qui apparaît clairement, c'est que les autorités religieuses de Jérusalem qui ont condamné Jésus à mort l'ont fait pour des motifs multiples. En plus des motifs religieux que l'on a déjà évoqués, le blasphème, certains avaient peur que si les Juifs étaient de plus en plus nombreux à suivre Jésus, eh bien ils avaient peur que cela fasse de l'agitation et que les Romains, craignant cette agitation, viennent à détruire Jérusalem ou tout du moins le temple et peut-être même toute la nation juive. C'est pourquoi le grand prêtre des Juifs de l'époque, Caïphe, proposa de mettre à mort Jésus. Il le fit en disant à ses confrères du tribunal « Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. » Jean 11, versets 49 et 50. Alors pourquoi ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus et non pas les Juifs ? Eh bien, vous le savez peut-être, depuis l'occupation romaine de la terre d'Israël, à partir de moins 63 avant Jésus-Christ, les autorités juives ont perdu le droit de mettre à mort les condamnés. Les Romains les en empêchaient pour avoir la mainmise sur ces grandes peines, ces peines les plus lourdes. La solution qui leur reste, c'est donc de livrer Jésus aux Romains en l'accusant non pas de blasphème cette fois, mais de révolte politique, en exerçant un certain chantage sur les autorités romaines pour qu'elles condamnent Jésus à mort. On lit en Luc 23, verset 2, « À la fin du procès juif, l'assemblée tout entière se leva et on amena Jésus chez Pilate. Les Juifs se mirent alors à accuser Jésus en disant « Nous avons trouvé cet homme, Jésus, en train de semer le trouble, sous-entendu politique, dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. » Les Juifs font devant Ponce Pilate de Jésus un trouble politique. C'est pourquoi Jésus a vécu non pas un procès, mais deux procès. Un premier procès fait par les Juifs, un second devant Ponce Pilate. Il a été, pourrait-on dire, condamné deux fois à mort, une première fois pour blasphème par les Juifs, mais il n'avait pas la possibilité et le droit de mettre à mort, et donc il a été condamné une deuxième fois pour révolte politique par les Romains, mis sous pression par les autorités religieuses juives. Comme on le voit, le procès de Jésus manifeste une certaine complexité qui nous est rapporté par les évangiles. Il est difficile de trouver un ou plusieurs personnes qui soient responsables personnellement de la mise à mort de Jésus. On est plutôt devant un acte collectif dans lequel on dénombre plusieurs personnes. Ça va de Judas jusqu'à un certain nombre des juifs, membres des autorités religieuses. Ça va jusqu'à Ponce Pilate, la collaboration des soldats romains, une foule d'anonymes, la lâcheté des apôtres qui s'enfuient, etc. Il est donc pour nous chrétiens hors de question de considérer l'ensemble des juifs, l'ensemble du peuple juif, comme responsable de la mort du Christ. À ce sujet, le dernier concile, le concile Vatican II, dans les années 60, a été très clair. Je cite « Ce qui a été commis durant la Passion ne peut être imputé indistinctement à tous les Juifs vivants à l'époque, ni même aux Juifs de notre temps. En revanche, l'Église affirme que ce sont tous les pécheurs qui furent d'une certaine manière les auteurs et les responsables de la passion du Christ. Oui, chacun de nos péchés, chacun de mes péchés, atteint d'une certaine manière le Christ lui-même. C'est bien pour ça que chacun d'entre nous peut dire « Je suis coupable de la mort du Christ ». En tout cas, je le suis chaque fois que je m'éloigne de lui, chaque fois que je pêche contre Dieu ou contre mes frères. C'est ainsi que saint François d'Assise a dit, par exemple, « Les démons, ce ne sont pas eux qui ont crucifié le Christ, c'est toi qui, avec eux, l'as crucifié et le crucifie encore chaque jour, à chaque fois que tu te délectes dans les vices et dans les péchés. » Dans le Nouveau Testament, on lit aussi que ce sont ceux qui se plongent dans les désordres et dans le mal qui crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu'il est en eux le Fils de Dieu par leur péché. On lit ça dans la lettre aux Hébreux au chapitre 6, verset 6. Maintenant, penchons-nous sur l'événement de la Passion. Une fois condamné par les autorités religieuses et civiles, Jésus est conduit jusqu'au lieu de la crucifixion, en portant sa croix sur les épaules. Les spécialistes et les historiens sont unanimes pour dire que le récit de ces événements, que l'on trouve dans chacun des quatre évangiles, eh bien, la partie de cet évangile qui raconte cet événement, c'est la partie la plus ancienne des évangiles sur la vie du Christ. C'est ce que les chrétiens, au fond, ont voulu tout de suite mettre par écrit, pour faire circuler le récit de ces événements. Ce n'est que dans un deuxième temps que les auteurs des évangiles ont complété le récit en racontant ce qui s'était passé avant, depuis la naissance du Christ jusqu'à sa passion. Cela dit bien pour nous l'importance qu'attachaient les premiers chrétiens à ces événements et aux derniers instants de la vie du Christ sur la terre. Reprenons ensemble les événements dans l'ordre. Tout commence avec la fête de la Pâque juive. Jésus a à peu près 33 ans et il s'est réuni avec ses disciples à Jérusalem. Il est monté à Jérusalem comme à son habitude pour célébrer cette grande fête qui fait mémoire de la sortie du peuple juif de l'Égypte. Les événements qui vont se dérouler alors sont les suivants. Le repas de la Pâque avec les disciples, que l'on appelle aussi la Sainte Cène, et durant laquelle Jésus annonce déjà qu'il va mourir. Il lave les pieds de ses disciples en signe d'amour infini pour eux et il institue le sacrement de l'Eucharistie. Il y a ensuite l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Ensuite vient l'arrestation, puis les deux procès dont nous avons déjà parlé. Enfin, le chemin de croix. Jésus est chargé de sa croix et il marche vers le calvaire. Et enfin, la crucifixion et la mort du Christ sur la croix. Suivra son ensevelissement dans une tombe neuve. Je n'ai pas le temps dans cet enseignement de reprendre en détail toutes les étapes de cet événement. Je vous invite en revanche, vous tous qui écoutez, à prendre le temps de les parcourir ou de les reparcourir en ouvrant un évangile. On ne médite jamais trop ces épisodes de la vie de Jésus qui sont d'une richesse incroyable pour notre vie spirituelle. Là, dans ces événements, se trouve le témoignage d'amour le plus fort que Dieu nous a donné, la crucifixion et la mort de son Fils, qui est mort pour nous. Troisième étape de notre parcours, posons-nous la question importante, pourquoi Jésus a-t-il souffert ? Pourquoi Jésus a-t-il souffert sur la croix ? La mort violente de Jésus n'a pas été le fruit du hasard. Ça n'est pas le fruit d'un concours de circonstances malheureux qui aurait desservi Jésus. La mort du Christ sur la croix, elle appartient au mystère du dessein de Dieu qui veut nous sauver par amour, par pur amour. Dieu a permis toute cette violence, toute cette cruauté, issue, c'est vrai, de l'aveuglement des hommes. Il l'a permis en vue d'accomplir son dessein de salut pour chacun d'entre nous. Une question peut nous traverser légitimement l'esprit. Pourquoi Jésus est-il mort ? Était-il nécessaire qu'il souffre pour que je sois sauvé ? Prenons le temps, dans cette troisième partie, oui, de répondre à ces questions un peu difficiles. D'abord, première raison et premier élément, les Écritures annonçaient la mort du Christ. Comme le dira Jésus après sa résurrection aux disciples d'Emmaüs, il dit ceci, « Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas, dit Jésus, que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire, Luc chapitre 24. Par ces mots, le Christ indique clairement à ses disciples qu'en mourant sur la croix, il accomplissait ce que l'Ancien Testament annonçait déjà. En effet, on trouve de nombreux passages dans l'Ancien Testament qui annoncent d'une manière plus ou moins voilée, c'est vrai, les événements de la fin de la vie du Christ. La prophétie la plus marquante à cet égard est celle qui se trouve dans le chapitre 53 du livre d'Isaïe. Il y est question d'un mystérieux serviteur souffrant qui sera mis à mort, alors qu'il est innocent, en vue de la rédemption universelle, c'est-à-dire en vue du rachat de tous les hommes de l'esclavage du péché. Saint Paul dira que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. De même, le psaume 21 annonce que le Messie aura les mains et les pieds percés. Ou encore dans le livre de Zacharie, l'auteur parle prophétiquement du Messie en disant « Ils regarderont vers moi, le Messie, celui qu'ils ont transpercé. » Deuxième élément pour approfondir la question que nous nous sommes posée, toute la vie du Christ est une offrande. Oui, pour bien comprendre le sens de la mort du Christ sur la croix, il faut la resituer dans l'ensemble de l'œuvre et de la vie du Christ. Car oui, toute sa vie est une offrande d'amour obéissante à la volonté du Père. Comme le dit saint Jean, le Fils de Dieu est descendu du ciel non pas pour faire sa volonté, mais celle de son Père qui l'a envoyé. On peut dire que dès les premiers instants de sa vie sur terre, le Fils de Dieu se met au service de notre salut en obéissant à la volonté de son Père. Il dit par exemple, Jésus, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. » Le sacrifice final de Jésus n'est en fait que l'expression d'une vie complètement donnée par amour pour son Père et pour nous, les hommes. Il dit par exemple, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. » On se souvient aussi que dans les débuts de son ministère public, Jean-Baptiste avait dit à Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » On le voit bien, toute la vie du Christ, depuis son commencement jusqu'à son terme sur la croix, exprime sa mission, servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Pour bien nous faire comprendre à quoi sert sa mort sur la croix et en quoi est-ce qu'elle est l'expression totale et parfaite de son amour pour nous, Jésus, lors de son dernier repas, a utilisé des mots très clairs. La veille de sa passion, alors qu'il était encore libre de faire demi-tour, Jésus, pendant son dernier repas, dit ceci. « Ceci est mon corps donné pour vous. Ceci est mon sang, c'est le sang de l'Alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » On le voit bien, Jésus anticipe dans ce dernier repas ce qu'il va vivre quelques heures plus tard sur la croix. En prononçant ces paroles, il institue ce qui sera le mémorial de son sacrifice. Jésus invite les apôtres à perpétuer ce repas qui célèbre et rend présent encore aujourd'hui son sacrifice rédempteur. Troisième élément, sur la croix, Jésus nous donne un témoignage de son amour infini, il nous aime jusqu'au bout. Le Concile de Trente, au XVIe siècle, a enseigné la chose suivante. « Par sa sainte passion sur le bois de la croix, le Christ nous a mérité la justification. » Pour bien comprendre cela, il faut comprendre ce qu'est la justification. Dans le langage biblique, cela veut dire tout simplement le fait d'être rendu juste. Le point de départ, avant d'être rendu juste, c'est donc le constat que l'homme est injuste, qu'il est pécheur, qu'il vit loin de Dieu et loin de ses frères à cause du mal qu'il commet, à cause de ses péchés. Alors, comment le Christ nous a-t-il justifié? Comment nous a-t-il rendu juste? Eh bien, le juste, c'est celui qui accomplit la volonté de Dieu pleinement. Le Christ, c'est lui le vrai juste, le seul juste, qui ne méritait donc pas ni la souffrance, ni la mort. Par choix, c'est-à-dire volontairement, il a choisi de nous aimer jusqu'à la fin. En mourant pour nous, sur la croix, non seulement il nous donne la preuve suprême de son amour infini pour chacun d'entre nous, mais, pourrait-on dire, il nous entraîne avec lui vers le Père. On peut dire, d'une certaine manière, que le Christ est mort à notre place sur la croix. C'est nous, par notre désobéissance à la volonté de Dieu, qui méritions ce que lui a subi. Il l'a subi volontairement pour nous rendre justes. Puisque le Christ est un homme, il peut souffrir comme nous. Et d'une certaine manière, il est mort en notre nom. Puisque le Christ est Dieu, il est plus fort que la mort, et donc il nous entraîne avec lui vers le Père. Mais ça, c'est la suite de l'histoire, c'est l'étape de la résurrection et de l'ascension du Christ au ciel, dont nous traiterons dans une prochaine vidéo. Enfin, posons-nous la question suivante, un peu difficile. Fallait-il nécessairement que Jésus meure sur la croix ? Oui, on se pose parfois aussi la question de savoir si le Christ devait mourir nécessairement sur la croix pour nous sauver. Lui qui est Dieu, ne pouvait-il pas nous sauver autrement ? Eh bien, voyez, à cette question, il n'y a pas de réponse tranchée et définitive. La mort du Christ sur la croix est d'abord un mystère qui nous dépasse. C'est Dieu qui a choisi et qui a mis en œuvre son plan de salut pour nous de la manière que lui voulait, que lui considérait sans doute la meilleure. Ceci dit, pour éclairer cette question, la tradition de l'Église et les théologiens qui nous ont précédés ont développé deux grandes idées qui nous aident un peu à avancer à travers ce mystère. Il y a d'abord cette formule que je vous livre. C'est une formule très ancienne et très célèbre aussi dans les premiers temps de l'Église qui dit ceci. Ce que le Christ n'a pas assumé, il ne l'a pas sauvé non plus. Qu'est-ce que cela veut dire ? La méthode choisie par le Christ pour sauver l'humanité, c'est de se faire lui-même homme. C'est d'assumer dans sa propre personne, dans ce qu'il est profondément, ce que chaque être humain vit sur terre. Il n'a pas vécu simplement avec une apparence d'homme, mais il s'est fait lui-même chair, c'est-à-dire homme, dans toutes les dimensions de l'humanité. Or, l'expérience de la souffrance et de la mort, nous le savons que trop bien, malheureusement fait partie de notre expérience humaine. Si Jésus n'avait pas vécu cette expérience terrestre douloureuse, il ne se serait pas fait complètement l'un de nous. Le Christ, en voulant sauver toute l'humanité, a choisi de vivre ce que vit chaque homme et de le vivre à fond, y compris la dimension tragique de la souffrance, du désespoir et de la mort. Comme le dit la lettre aux Hébreux, il s'est fait semblable à nous en toutes choses, excepté le péché. La formule qui dit « ce que le Christ n'a pas assumé, il ne l'a pas sauvé non plus » signifie donc que pour nous sauver de la souffrance et de la mort, il fallait que le Christ assume dans sa propre personne la mort et la souffrance. La deuxième grande idée que nous ont léguée les théologiens qui nous précèdent est la suivante. On ne peut pas dire à proprement parler qu'il était nécessaire que Jésus souffrit sur la croix, car, disent-ils, il n'y a en Dieu jamais de nécessité, car Dieu est toujours libre. En revanche, on peut dire qu'il convenait que Jésus souffrit et mourut sur la croix. On remplace donc l'idée de nécessité, qui ne convient pas pour Dieu, par l'idée de convenance. En disant cela, oui, on dit que Dieu aurait pu, parce qu'il est tout-puissant, nous sauver d'une autre manière. Toutefois, le fait qu'il ait choisi de nous sauver de cette manière-là convenait de manière éminente au salut qu'il voulait nous offrir. Dieu ne s'est pas trompé en choisissant cette méthode. Car tout en nous donnant le salut, cette méthode exprime aussi l'infini amour et l'infinie tendresse que Dieu a pour chacun d'entre nous, au point, oui, de donner sa vie pour nous qui l'aiment infiniment. Chers amis, nous arrivons au terme de cet enseignement. Jésus nous a sauvés par sa mort, bien sûr, mais sa mort n'aurait aucun sens si elle n'était pas suivie par une résurrection qui témoigne de manière incroyable que la vie de Dieu est bien plus forte que la mort, que la victoire de Dieu emporte tout sur son passage. Alors rendez-vous pour notre prochain enseignement, notre prochaine catéchèse sur Padre Blog. À très bientôt.